Cube Radio.
La chronique juridique de Nada Boumefta.
C'est l'heure de retrouver Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
Bonjour Vincent, bon vendredi.
Oui, on commence en parlant de la police provinciale de l'Ontario dans un dossier de profilage racial, un jugement qui est important concernant des migrants agricoles.
Oui, on en avait traité, si tu te souviens bien, au début de l'été de cette affaire-là, donc la cause qui allait être entendu devant les tribunaux administratifs en Ontario, basé sur la réglementation d'Ontario. Rappelons qu'au Québec, on a notre propre charte québécoise qui protège, entre autres, le droit à la vie privée, mais il y a aussi la charte canadienne qui protège tout individu face aux autorités comme la police. Et dans ce cas-ci, on a décidé de poursuivre donc au civil devant les tribunaux des droits de la personne en Ontario, suite à une histoire d'enquête de la part de la police de l'Ontario qui cherchait un présumé agresseur sexuel. Donc quand même, pour une cause très sérieuse, où la victime était capable d'identifier quand même l'individu comme étant un individu grand, musclé, d'origine noire, qui peut-être, selon elle, travaillait justement et faisait partie du groupe des migrants. Suite à cette information-là, la police a débarqué dans plusieurs fermes et s'est mis à prendre l'ADN de 90 personnes environ, sans nécessairement avoir de mandat basé là-dessus. Et on va se le dire, là, ils ont juste pris tous ceux qui étaient foncés et ont pris leur ADN. Donc, le tribunal a conclu que c'était une intrusion à la vie privée et que la police de l'Ontario devra dédommager ces gens-là pour une valeur totale de 1,6 million de dollars.
Je pense que ce genre de jugement-là, ça a un effet un peu partout, là, un impact sur la façon de faire pour la suite?
Absolument. Ça envoie en tout cas un message très clair à la police que malgré le fait là, qu'ils auraient pu vouloir agir dans l'urgence, et c'est probablement de cette façon-là qu'ils l'ont justifié, hein, Vincent. Quand on a peur, par exemple, que la preuve disparaisse, je donne souvent l'exemple d'un trafiquant de drogue qui peut flusher la drogue dans les toilettes, là, et donc permettre aux policiers de décider de défoncer la porte sans avoir de mandat pour rentrer dans une maison. La même chose quand on rentre et qu'on prend des échantillons sur notre corps, donc que ce soit de la salive, du sang, etc., il faut quand même avoir des motifs. Dans ce cas-ci, puisqu'on ciblait, selon eux, un suspect qui était migrant, donc il n'y a pas de statut fixe au Canada et qui peut quitter, finalement, en tout temps, ils ont justifié que c'était cette rapidité d'agir-là qui était nécessaire. Et finalement, on tranche que ce n'est pas suffisant dans ce cas-ci. Alors, clairement, un message à tous les services de police que lorsqu'on est dans ce type de cas-là, et le tribunal le dit, hein, c'était clairement basé sur la race là, qui ont été chercher ce bassin de personnes-là, que c'était pas adéquat. Effectivement, la façon de procéder devra changer, on l'espère, parce que là, on a un cas de jurisprudence, en tout cas, en matière de dédommagement.
Des dossiers qui suivent la pandémie, Nada, peut-être certains qui ont eu des infractions reliées à la pandémie, qui se disaient, bon, une fois la pandémie passée, ils vont tout abandonner ça. C'est pas le cas pour bien des choses, entre autres les dossiers de faux passeports vaccinaux.
D'abord, comme tu le dis, on ne laisse pas tomber ça. Les autorités, les enquêtes sont ouvertes et prennent ça très au sérieux. Avec raison, toi et moi, on va se le dire, là, c'est pas des jokes. Puis il y a beaucoup qui sont justement à la vaccine pour avoir leur passeport, pour avoir, par exemple, de droits de transport, que ce soit aérien, par train ou par voie navale. Il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles on s'est plié pour s'assurer d'une immunité collective, sachant que la pandémie était quand même très sérieuse et avait un impact sérieux dans notre société. Alors, maintenant, on en est à l'étape de porter des actions. Il y en aura au pénal, donc des questions d'amende, mais il y en aura également au criminel pour création de faux documents. Donc, il resterait, selon les autorités, une trentaine d'enquêtes encore en cours, mais je m'attends à un volume quand même assez important. Et du côté du DPCP, Vincent, le message est très clair. Il n'y aura pas d'application, par exemple, de traitement de non-judiciarisation ou de mesures de rechange qui soient, Vincent, qu'on peut utiliser pour des gens, par exemple, qui n'ont pas d'antécédent judiciaire, qui ont vraiment un profil non-délinquant, quelqu'un qui, bon, s'est retrouvé dans un certain type de criminalité, mais aurait des raisons de ne pas être jugé au criminel ou au pénal puis d'avoir des antécédents. Alors, le DPCP est très clair à ce sujet. Pour ce type d'infraction-là, ce ne sera pas une possibilité et c'est à leur discrétion. Hein. Donc, même comme avocat de la défense, moi, si de l'autre côté, la poursuite refuse d'appliquer ça, on n'a pas vraiment de moyens de le demander.
Et on termine avec une histoire de sextorsion. On en a parlé un peu cet été de ce genre de problématique. Un de ces dossiers amène à une peine quand même de 18 mois de prison.
L'histoire, c'est particulière parce que c'est une dame. D'abord, on parle d'une victime majeure. Si ça avait été une victime mineure, je me serais attendu à une sentence encore plus sévère. L'individu de 41 ans qui a été déclaré coupable fait donc face à une sentence de 18 mois de détention ferme avec une probation de 3 ans et on lui impose, Vincent, 2 ans de suivi. Ça veut dire que pendant 2 ans, il va devoir aller voir un agent de probation, donner l'état de sa situation, donner des nouvelles de où il est. Je vais revenir un peu sur cette histoire-là qui est quand même particulière parce que c'est une dame en fait qui a perdu son téléphone cellulaire, qui l'a échappé, l'écran a craqué et cet individu-là l'a trouvé, a réparé l'écran, a eu accès au contenu de la photo et s'est mis à changer les photos de profil de la dame Facebook avec des photos intimes. Alors c'est sûr que quand toi t'es chez vous, tu te dis j'ai perdu mon téléphone, tu regardes ça, tu te dis ben ouh barouette, qu'est-ce qui se passe,
ouais.
C'est qui est derrière l'écran.
Ça veut dire quand même qu'il n'y avait pas de protection de base sur son téléphone, là, ce qui est un rappel. Là. Je comprends que ça veut pas dire qu'il mérite de se faire d'avoir ce type de crime-là, mais bon, on rappelle quand même d'usage à travers ça. Donc, on s'imagine la dame qui va sur son Facebook à elle et c'est soudainement des photos intimes d'elle qui sont sur le profil. C'est assez horrible.
Là. Exactement. Puis elle a été capable de rentrer en contact avec l'individu qui l'a, et d'où l'extorsion. Bon, demande de l'argent en échange de retirer ces photos-là puis de lui redonner son numéro de téléphone. Le juge a donc tranché que ça a clairement eu un impact sur la vie de cette dame-là, sur cette victime-là, puis évidemment des photos intimes qu'elle n'a pas consenti à partager. Alors même quand on est majeur, faut le dire, on a le droit de se prendre en photo, on a le droit de partager par texto à des gens pour x, y raison, mais c'est avec notre consentement. Dans ce cas-ci, ça a été fait à l'insu. C'est sûr, Vincent, qu'on peut évidemment conseiller aux gens de protéger leur téléphone. Mais faut pas oublier qu'on est à l'heure aussi où il y a des hackers, puis avec le changement d'écran, bon, a-t-il eu accès justement facilement au code en demandant de débarrer le téléphone? Ce qu'on compare la suite, toute une tollée, puis évidemment l'impact sur cette victime-là, oui, dans cette affaire-là, et je voulais le dénoncer de façon claire.
Merci beaucoup, Nada. Bon week-end, à lundi.
Merci, à lundi.
Au revoir.